Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse au bilan de la mise en œuvre ces 10 dernières années des recommandations adoptées lors du sommet mondial sur la société de l'information, sommet réuni à Genève puis à Tunis en 2002 et en 2005. Et pour nous en parler, Florence Westgaard a joint Adama Samasekou, ancien ministre de l'Éducation du Mali, qui a présidé le comité préparatoire du sommet pour la phase organisée à Genève.
Monsieur Samasekou, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous participez à cette réunion de haut niveau pour examiner les avancées depuis le sommet mondial sur la société de l'information qui avait lieu il y a 10 ans. Donc, vous pouvez nous dire un peu quelles sont ces avancées?
En réalité, la réunion s'est achevée avec deux documents fondamentaux. Une déclaration sur le processus de réalisation des lignes d'action du plan d'action adopté à Genève et puis un document sur la vision du SMSI dans l'après-2015. L'idée était de pouvoir faire une revue finale sur le degré d'atteinte des objectifs que s'était fixé le sommet. Et de ce point de vue, c'est vrai que, grosso modo, on se rend compte que nous sommes partis du rêve et à un vécu réel des changements profonds par l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication, même si nous nous rendons compte et nous sommes d'accord qu'en réalité, il y a un certain nombre de défis qui n'ont pas pu être relevés. Par exemple, on constate aujourd'hui qu'il y a plus de la moitié de la planète qui n'est pas encore connectée à l'Internet. Donc ça, c'est une question fondamentale qui fait partie des défis du post-2015. Par ailleurs, il est certain que le plus grand bénéfice qu'on a constaté depuis le processus jusqu'à maintenant, c'est un bénéfice que j'appelle l'esprit du sommet mondial, c'est la dynamique multipartenariale. Gouvernement, secteur privé, société civile qui inclut les universitaires, la recherche, les médias et organisations internationales. Donc, ces entités-là ont cheminé ensemble tout au long du processus de préparation. Et vous vous rappelez que le SMSI a été le seul sommet du système des Nations Unies à n'avoir pas souffert d'un contre-sommet pendant tout le processus, parce que nous avons su créer les conditions de confiance pour que les acteurs travaillent ensemble. Tout le monde s'est rendu compte que la complexité des questions liées à la société de l'information exige une véritable adhésion des différents acteurs au processus de consensus à bâtir. Donc ça, aujourd'hui, le document de la vision a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat multi-acteur et qu'à côté de ce qu'on dit habituellement, le PPP, Public-Private Partnership, qu'on doit renforcer le MSP, Multi-Stakeholder Partnership.
Donc, où en est-on exactement? Parce que, bien sûr, il y a de plus en plus de pays, mais on voit qu'il y a tout de même une différence entre les pays en développement et les pays développés. Quel a été un peu le but de la réunion? Qu'est-ce qui en est sorti, en fin de compte?
Le but de la réunion, c'est de constater qu'il est important de redoubler d'efforts pour, justement, rendre la connectivité plus universelle. Et de ce point de vue, un accent a été mis sur l'usage que l'on devrait faire de la large bande passante. Et vous savez qu'une commission de la large bande pour le développement numérique a été mise en place par l'UIT et l'UNESCO il y a cela 4 ans, en 2010. Et que justement, c'était une des réponses à l'appel du secrétaire général Ban Ki-moon pour essayer de faire accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Donc, la réunion du segment de haut niveau du SMSI plus 10 a mis l'accent davantage sur le lien qui devrait se faire désormais entre l'utilisation des technologies et l'atteinte des objectifs millénaires pour le développement, surtout dans l'agenda post-2015 du développement, parce qu'on se rend compte que toutes les applications des technologies devraient pouvoir donner une impulsion extraordinaire, qu'il s'agisse de l'éducation, e-éducation, de la santé, e-health, on parle même de m-health, parce que c'est les mobiles au niveau de la santé, qu'il s'agisse de l'agriculture, e-agriculture, qu'il s'agisse de l'administration, bien sûr, e-government. Tous les secteurs de développement sont touchés par les technologies. Malheureusement, on constate encore aujourd'hui qu'au niveau des pays, comme peut-être même au niveau des Nations Unies, cette dimension n'est pas assez prise en compte. Et dans nos débats ici, nous avons estimé qu'il était important qu'à New York, on puisse se rendre compte que toutes les agences de développement doivent mettre l'accent sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour atteindre les objectifs globaux de développement. De ce point de vue, ce que je dois dire, c'est que dans le débat, nous avons mis l'accent sur une question fondamentale, la question de la langue de l'Internet. Ça, c'est aussi un des défis que le poste 2015 doit gérer. Parce que, y compris pour les objectifs du millénaire pour le développement, on ne pourra jamais les atteindre tant que les acteurs à la base ne seront pas capacités dans leur langue. Et ça pose le problème de l'Internet multilingue et de la nécessité, c'était d'ailleurs un objectif du plan d'action de Genève, hein, que ça puisse permettre à toutes les langues du monde d'être dans Internet à terme. Or aujourd'hui, nous avons fait des progrès, nous sommes passés d'une dizaine, quinzaine de langues sur Internet à une centaine aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais une centaine par rapport aux 6000 langues du monde, vous voyez qu'on est loin du compte. Donc, c'est question fondamentale de dire qu'il faut que tout le monde prenne conscience que les technologies de l'information et de la communication sont l'un des meilleurs instruments de développement aujourd'hui dans cette nouvelle société en construction. Cette prise de conscience n'est pas encore avérée. Il est bon que dans la revue qui sera faite au niveau de l'Assemblée des Nations Unies, cette dimension puisse être prise en compte. Donc d'où le lien entre le post-SMSI et le post-agenda du développement 2015.
Et donc, après cette réunion, que se passe-t-il exactement? Tout le monde retourne chez soi, on essaie d'appliquer ça dans chacun dans son pays. Qu'est-ce qui se passe après?
Premièrement, il faut faire en sorte que dans chacun des pays qui ont participé à cet événement, on puisse réinvestir la dynamique du sommet mondial. Parce qu'au fil des ans, au bout de 10 ans, les gens continuent peut-être à travailler plus dans la perspective des technologies, en disant c'est les technologies, et ils ne voient pas qu'il s'agit d'une société en construction. Donc, il est important de faire prendre conscience à tous les gouvernements qu'il s'agit d'utiliser les technologies dans tous les secteurs de développement pour que ça puisse permettre à chaque pays de faire des avancées notoires dans la bonne gouvernance, dans l'augmentation de la croissance, dans l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier en milieu rural. Donc ça, c'est la tâche de chaque délégation venue ici. Au niveau international, après cette réunion, il me semble important que le secrétaire général de l'UIT, avec les agences des Nations Unies qui sont dans la coordination pour l'après-SMSI, puissent être les avocats de l'espace qui a été créé ici, dans ce segment de haut niveau de l'évaluation, les avocats à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour qu'à côté du rapport qui va être présenté, on puisse faire comprendre qu'il y a nécessité, au niveau des Nations Unies même, de lancer un appel à tous les pays et de mettre en œuvre un dispositif qui permettrait effectivement d'articuler l'utilisation des technologies, l'utilisation généralisée des technologies avec le processus d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Troisième dimension, je pense qu'il faut revoir l'architecture globale de l'après-SMSI en revenant au schéma que nous avons utilisé dès le départ, c'est-à-dire que chaque région du monde devra désormais considérer que ce qui est sorti de cette revue finale doit être une sorte de feuille de route pour que l'on revienne au premier moment d'organisation du sommet en créant autour des commissions des Nations Unies qui existent dans chaque région une véritable dynamique régionale où tous les pays concernés dans la région vont s'associer sous l'égide politique des organisations politiques qui existent. Je prends le cas de l'Afrique par exemple, l'Union africaine avec l'UNECA, avec la CEA à Addis, devrait pouvoir organiser un débat au niveau de chacun des pays membres de l'Union africaine pour identifier concrètement les modalités de mise en œuvre de la feuille de route qui est sortie de Genève aujourd'hui. Et ça permettra de ne pas laisser dans les tiroirs, disons, les grandes déclarations qui auront été faites ou les grands engagements qui ont été pris ici, mais concrètement de les amener au niveau des populations, au niveau des communautés. D'autant que notre rencontre de Genève ici maintenant a montré que sur le terrain, beaucoup de choses intéressantes se font, tant par le secteur privé que par les gouvernements, que par les communautés, la société civile. Donc il y a beaucoup d'activités qui se mènent et on est véritablement entré dans l'ère du numérique. Seulement, il faudrait que cela soit pour le plus grand nombre.
Vous êtes du Mali, donc oui. Vous allez retourner dans votre pays. Où en est justement le Mali? On connaît les difficultés que le pays a en ce moment. Est-ce que c'est difficile pour le pays pour arriver justement à atteindre toutes ces technologies?
Vous savez, le Mali avait été parmi les pays pionniers à l'époque. Bon, je crois que ma seule présence en est une preuve. On a confié au Mali la direction des affaires à l'époque pour conduire les négociations au niveau du sommet mondial dans la phase de Genève. Et cela parce que le président du Mali de l'époque avait été un des champions de la question d'utilisation des technologies, puisque le Mali avait organisé en 2000 les passerelles du développement à Bamako. Mali a organisé aussi, pour la région Afrique, la première conférence régionale préparatoire du sommet mondial en mai 2002, avant même que le processus soit formalisé en juillet 2002 ici à Genève. Donc, le Mali était aux avant-postes avec les difficultés, avec les changements. C'est vrai que la visibilité du Mali a été réduite. Mais je suis convaincu aujourd'hui, avec les changements qui se font au niveau du pays, avec l'apaisement et la sécurisation progressive qui va se mettre en place, avec la stabilisation, le Mali va rebondir, d'autant que le gouvernement actuel du Mali comporte un département qui est appelé, d'ailleurs, département ministère de l'économie numérique et de la communication. Donc, la question de la prise en charge, de la mise en œuvre des résultats du sommet mondial va être au cœur des préoccupations du gouvernement malien actuel. Je voudrais, avant de terminer, quand même intervenir sur une question plus globale. Il me semble fondamental aujourd'hui de relancer l'idée de créer une charte mondiale de conduite éthique pour la gestion de toutes les questions liées à cette nouvelle société en construction. Parce qu'il est inadmissible qu'on continue à voir se creuser les fossés entre les pays les plus nantis et les moins nantis en matière de développement numérique. Il est inadmissible que l'on puisse continuer à voir se développer la cybercriminalité sans que nous puissions interpeller les différents acteurs concernés. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, on continue à avoir des centaines de millions d'analphabètes, alors que les moyens que nous avons aujourd'hui peuvent nous permettre d'alphabétiser rapidement tout le monde. Donc, il est important d'avoir une charte de conduite éthique qui permettrait à tous les acteurs, les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les organisations internationales, chacun pouvant jouer son rôle pour qu'ensemble on puisse sortir l'humanité de ce mauvais pas et qu'on crée les conditions d'une vraie solidarité mondiale.
Et vous pensez que ça devrait être fait soit aux Nations Unies, soit à travers justement de l'UIT ?
Je pense que c'est au niveau des Nations Unies, je vais vous dire pourquoi. L'UIT a déjà une dynamique partenariale, parce qu'elle a bientôt 150 ans, l'année prochaine on aura 150 ans. Mais l'UIT travaille déjà en bon partenariat entre le public et le privé. C'est une très bonne chose. Mais le sommet mondial a donné un élargissement à ce type de partenariat en intégrant la dimension à la fois de la société civile qui comporte l'académie et tout ça, et les organisations internationales. C'est-à-dire qu'en réalité, on a un espace partenarial élargi qui peut être les prémices d'une sorte de gouvernance partenariale mondiale. Et donc, à mon avis, c'est au niveau de New York, c'est au niveau du système des Nations Unies et que cela doit être conforté. Je vais vous dire pour la petite histoire. À l'époque où le secrétaire général Kofi Annan mettait en place le panel de haut niveau avec le président Cardoso pour réfléchir au rôle de la société civile, nous étions ici à Genève en train de véritablement mettre en place une dynamique partenariale entre la société civile, qui a eu pour la première fois dans l'histoire du système des Nations Unies un bureau international, qui a travaillé en bonne coopération avec le bureau des pays, avec la Chambre internationale de commerce qui représentait le secteur privé et avec évidemment toutes les organisations internationales qui travaillaient dans le processus. Donc, on pourrait institutionnaliser cela au niveau international, au niveau régional et au niveau national, ce qui permettrait d'insuffler dans la dynamique mondiale une nouvelle gouvernance partenariale du sommet à la base, avec une démarche participative et grâce aux technologies, grâce à la transparence qui va se développer dans chaque pays, quelles que soient les idéologies des pays, on peut arriver à créer plus de dynamique d'implication et de participation. Et là, on va véritablement aller vers une société inclusive.
Voilà, et c'est avec l'ancien ministre de l'Éducation du Mali, Adama Sama Sékou, que se referme ce magazine Escale, un magazine consacré cette semaine au sommet mondial sur la société de l'information, 10 ans après. Un magazine préparé par Florence Westgaard et présenté par Jérôme Longuet. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.